civisme et droit du citoyen pour connaître ses droits, maîtriser ses devoirs et ses obligations.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent ?
Civisme et droit du citoyen, une émission pour un développement endogène du citoyen et de la société. Civisme et droit du citoyen, une émission de la web radio Awevi présentée par Spirou Maoulé.
Est-ce que les gens naissent pareils ou pas ?
Soyez au rendez-vous tous les mardis à 17h, rediffusion tous les dimanches à 14h. Arwevi Info, l'information comme si vous y étiez.
Bien chers auditeurs de Awevi Info, nous voici à l'heure de notre émission Civisme et droit du citoyen. Civisme et droit du citoyen, c'est une heure pour comprendre, maîtriser et avoir des informations sur le droit, la citoyenneté et le civisme. Civisme et droit du citoyen, c'est votre rendez-vous quotidien pour vous permettre de mieux appréhender la chose juridique.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late, he may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.
Soyez heureux, c'est ce que nous vous recommandons pour la journée d'aujourd'hui. Nous essaierons de l'être en vous donnant des informations, mais l'information du jour n'est pas aussi heureuse que cela. En réalité, elle est, disons, malheureuse selon d'où, de quel côté vous voyez la chose. Vous savez qu'en général, ce qui est bon pour quelqu'un peut être mauvais pour l'autre. Et donc, selon votre éthique, selon votre conception de la vie, ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose. Mais nous allons commencer par faire un peu d'histoire. Chercher les origines historiques de la prostitution, qui est une opération quasiment impossible, car bien qu'il ne soit pas certain qu'il s'agisse du plus vieux métier du monde, on signale quand même la prostitution dans tous les peuples d'Orient, déjà 3000 ans avant notre ère. Donc si ce n'est pas prouvé que c'est le plus vieux métier, c'est quand même prouvé, c'est quand même clair que ce métier existe depuis fort longtemps, 3000 ans avant notre ère d'aujourd'hui. Il existait dans certaines sociétés primitives européennes également la prostitution, mais une prostitution qui était liée à la notion d'hospitalité. Les femmes de la maison étaient offertes aux hôtes de passage pour montrer le degré d'amitié, le degré d'hospitalité du chef de maison. Très vite, la famille ou le clan trouva un intérêt dans cette pratique, au point que la prostitution représentait pour les femmes de conditions libres une source de revenus pour se constituer une dot et accéder au statut recherché du mariage. Les femmes qui n'avaient donc pas d'activité, qui n'avaient donc pas les moyens pour doter un homme, se livraient à la prostitution pour épargner. Est-il besoin de rappeler qu'à cette époque, c'est la femme qui payait la dot pour épouser un homme? La prostitution s'est progressivement réduite à un rituel sexuel prenant son vrai visage durant les Saturnales et autres orgies à caractère religieux. Aussi bien que le rite demeure, la prostitution devient un phénomène social et commence à se désacraliser. Les sanctuaires s'enrichissent des sommes payées par les fidèles désirant accomplir le rite, tandis que les chefs de famille rentabilisent les femmes qui sont leur propriété en louant leurs services. Les souverains de l'ancienne Asie allèrent jusqu'à instaurer une prostitution légale en ouvrant des établissements d'État destinés à protéger l'ordre public et à fournir des ressources fiscales. Ainsi, la prostitution était légale dans la plupart des pays. Débauche et prostitution sont libres aussi longtemps, tout du moins, que des manifestations extérieures, telles que le racolage ou l'exhibition sexuelle, ne troublent pas l'ordre public. Le législateur s'est toujours attaché, en revanche, à poursuivre ceux qui, à des titres divers, facilitent les débordements sexuels d'autrui ou en profitent. C'est ainsi qu'on va trouver de nos jours beaucoup de tests de plus en plus nombreux et relatifs à des comportements précis qui punissent le proxénétisme tant direct qu'indirect. On ne punit pas la prostitution, mais on punit le proxénétisme. Celui qui profite du travail sexuel d'une femme pour s'enrichir, souvent moyennant la protection de cette femme-là ou lui accordant le gîte. Le proxénétisme est interdit un peu partout, mais également, à l'exception de quelques rares pays, on interdit également le racolage. Quelques dispositions vouées à assurer la protection des mineurs de 15 ans sont les seules restrictions qu'on émet à la prostitution. Le code pénal n'intervient pas pour encadrer ou réprimer les comportements et les pratiques sexuelles des individus. D'ailleurs, ça serait très difficile. Comment arriver à punir, à interdire la prostitution alors qu'on ne peut pas interdire des relations sexuelles libres entre un homme et une femme? La prostitution, donc, est difficile à arrêter. Mais par contre, on peut essayer de protéger les enfants surtout, l'ordre public et les bonnes mœurs surtout, en interdisant le proxénétisme et le racolage. La plupart des pays ont sorti des tests pour punir le racolage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voudrions nous entretenir sur le racolage, qui n'est pas exactement la prostitution, mais qui est un outil de la prostitution. Le racolage, par contre, est interdit, alors que la prostitution n'est pas interdite. Qu'est-ce que c'est que le racolage? Comment punir le racolage? Comment éviter le racolage? Quelles sont les conséquences du racolage? Voilà quelques éléments que nous allons donner à travers notre émission de ce jour.
And I
Dans un sens général, le racolage est l'action d'attirer les gens à soi par des procédés en général peu scrupuleux. Mais de façon particulière, il est l'action pour une prostituée de racoler un client sur la voie publique. Il est une faute pénale prévue et punie par le Code pénal togolais de 2015. Pour le Code pénal togolais, constitue le racolage le fait pour toute personne, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de solliciter publiquement autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération. Il nous faut donc, comme c'est une faute pénale, il nous faut donc les trois conditions pour constituer le délit. Un élément légal, un élément matériel et un élément intentionnel. Pour l'élément légal, rappelons simplement que le racolage est prévu et puni aux articles 397 et 398 du Code pénal de 2015. Donc, légalement, le racolage est un délit prévu et puni par la loi togolaise. L'élément matériel, il consisterait pour une personne de solliciter publiquement autrui pour des relations sexuelles. Si la loi a prévu de manière générale, par la formule « toute personne », que le racolage peut être fait par une femme ou par un homme, est tombée ainsi sous le coup de la loi, elle crée une ambiguïté par le fait que les hommes dans notre société soient habitués à aborder les femmes dans les rues pour leur proposer une relation amoureuse ou pour leur proposer une relation amicale. Il y a donc quelque chose qui n'est pas clair dans la loi. Toute personne de racoler, est-ce que les hommes peuvent tomber sous la loi de l'article 397 en disant qu'il fait du racolage? N'oublions pas que les hommes peuvent être aussi des prostituées. Nous les appelons de façon particulière les gigolos. Et donc, le gigolo peut faire du racolage. Il serait donc difficile d'appliquer la loi au sens strict, parce que comment arriver à démontrer parfois que l'homme qui aborde une femme dans la rue, c'est pour lui proposer une relation contre paiement d'une somme par ou l'homme ou par la femme, selon la personne qui racole. On n'a pas besoin de préciser que déjà, l'homosexualité n'est pas acceptée. Et donc, ça doit être un geste envers quelqu'un de l'autre sexe obligatoirement. Mais comme je le disais, il serait difficile d'appliquer la loi au sens strict, car il serait difficile de savoir que c'est pour des relations sexuelles, auquel cas ce serait un délit, ou si c'est pour une relation amoureuse, auquel cas il ne s'agirait pas de racolage. Mieux encore, par la formule « solliciter publiquement », le législateur laisse planer un doute, car il n'est pas impossible, dans un lieu privé, mais fréquenté par beaucoup de personnes, de voir des activités de racolage. Pour contourner le problème de lieux publics, les prostituées en Europe, par exemple, préfèrent rester dans leur voiture pour se faire aborder par les clients. C'est alors que les policiers ont recours à d'autres astuces pour les coincer. Une des prostituées en France confie qu'alors que plusieurs ont fait le choix de travailler dans un véhicule pour être moins visible et ne pas risquer d'être poursuivis pour racolage, elles se font arrêter quand le client sort de la voiture alors qu'il était monté sans sollicitation. Elle explique donc qu'il y a un amalgame entre le racolage qui est un délit et la prostitution qui n'est pas légale, qui n'est pas illégale, qui est donc légale, en tout cas qui n'est pas forcément interdit. Par contre, le législateur a contourné le problème en mettant que le racolage existe même par une attitude passive. Ce n'est pas forcément celui qui va vers l'autre qui fait le racolage. Vous pouvez faire du racolage de manière à ce que les gens viennent à vous. Et cela se fera rien que par votre façon de vous habiller, par votre façon de vous tenir sur la voie publique, ou même par votre façon de garer le véhicule dans la rue. Il y a une autre prostituée en France qui raconte qu'elle a été arrêtée 40 fois en 6 mois alors que, dit-elle, c'est les clients qui l'abordent. Jamais elle ne va vers eux, jamais elle ne fait de signe, mais la police l'arrête parce qu'elle le connaît, parce qu'elle la connaît. La police la prend parce qu'elle sait qu'elle est une prostituée. Est-ce que c'est pour cette raison? Absolument pas, puisque la loi dit même par une attitude passive. Il suffit d'arriver à démontrer que votre posture, que votre habillement, que votre façon d'être, que vos gestuels ne correspondent pas à des gestuels de personnes qui passent simplement sa route ou qui attendent simplement quelqu'un. Mais ça démontre plutôt que vous aguichez quelqu'un, que vous voulez attirer quelqu'un à vous. Et comme nous le disons, aujourd'hui ou dans notre société, les filles sont habituées à s'accoutrer de façon extravagante, à porter des habits très subjectifs, et à déambuler les rues comme si elles ne faisaient pas autre chose que de la prostitution, il va être difficile de pouvoir distinguer qui fait du racolage passif ou qui fait du racolage actif. Ce qui est clair, c'est que par contre, on sait qu'il y a des zones qui ont l'habitude de recevoir ces prostituées qui sont en racolage. Là, au moins, il n'y aura pratiquement aucun doute, sauf par circonstances exceptionnelles, que ce soit quelqu'un qui passe en ce moment-là où la police intervient, alors que ce n'est pas habituellement quelqu'un qui est dans le métier. Sinon, en réalité, le racolage ne veut pas dire que forcément vous appelez la personne, que vous allez vers la personne, mais le racolage veut dire simplement que même votre attitude, votre façon de vous habiller, votre façon de rester debout sur la route, sur la voie publique, dans les lieux publics, n'est autre qu'une position subjective pour attirer à vous le regard bienséant d'un homme qui voudrait avoir une relation sexuelle en contrepartie d'une somme d'argent qu'il va vous payer ou qu'il promet de vous payer. C'est ce qui amène alors à voir le troisième élément, qui est l'élément intentionnel, qui est est réellement l'élément le plus déterminant, mais dont la preuve n'est pas toujours aussi facile que ça. L'élément intentionnel ici consiste dans le fait d'aborder ou d'être abordé, mais dans le but d'avoir des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération. Il y a donc un marchandage. Il y a donc une question précise. Celui qui racole a besoin en retour d'une somme d'argent à percevoir. Celui qui est racolé a besoin d'avoir du sexe. Pas forcément d'avoir une relation sexuelle, mais une relation fondée sur le sexe. C'est-à-dire qu'il faudrait alors distinguer le fait, on ne distinguerait peut-être pas le fait que vous ayez eu la volonté de pénétrer la femme, mais simplement le fait que vous avez eu besoin de vous satisfaire sexuellement. Cela suffit pour dire qu'intentionnellement, vous avez été ou vous avez fait l'objet du racolage. Le fait d'aborder ou de se faire aborder ne doit pas être fortuit, mais doit être soutenu par l'idée d'avoir des relations sexuelles payantes. Il ne s'agit donc pas de proposer une relation amoureuse, mais d'avoir de l'argent ou la promesse d'avoir de l'argent en contrepartie du sexe. En clair, le racoleur doit être un ou une prostituée. Car dans le dictionnaire, la prostituée ou le prostitué, surtout la prostituée dans le dictionnaire, est la femme dont la profession consiste à avoir des rapports sexuels pour de l'argent. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, ce n'est pas seulement la femme, mais l'homme aussi. Et il y a une multiplication des synonymes pour démontrer ou pour appeler ou pour dénommer une prostituée. On a catin, on a cocotte, on a femme galante, on a gourgandine, on a grue, on a gigolo pour les hommes, etc. Mais dans tous les cas, c'est des prostituées. La prostitution consiste donc à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques, de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. La prostitution ne signifie pas forcément une pénétration sexuelle, comme je le disais, car le fait même d'aider la personne à jouir moyennant de l'argent, c'est de la prostitution. Ainsi, constitue un fait de prostitution le fait même pour des masseuses de pratiquer sur leurs clients, même sans rapport sexuel, des attouchements ou des caresses allant jusqu'à une éjaculation. Et donc, il apparaît clairement que le racolage se base essentiellement sur la prostitution. C'est le fait pour le prostitué ou la prostituée d'attirer ses clients, d'appeler ses clients, d'aborder ses clients ou de se faire aborder par ses clients, mais dans les lieux publics. Ce que la loi interdit, c'est que ce soit fait dans les lieux publics. C'est précisément parce que la prostitution n'est pas une infraction pénale que l'on va chercher en vain sa définition légale, sa définition juridique. En réalité, le législateur a choisi tout simplement d'ignorer ce comportement lorsqu'il est envisagé de façon autonome. En vertu de la liberté individuelle de chacun, on considère, surtout dans les pays occidentaux, que le choix de sa vie sexuelle doit être libre et absolument libre. Et c'est d'ailleurs les prémices à l'homosexualité, puisqu'on permet à l'homme de choisir sa volonté d'être avec ou de ne pas être avec ou un homme ou une femme. Et si donc un homme ou une femme décide de monnayer ses faveurs sexuelles, on hésite même à parler, à utiliser l'expression « la vente de son corps ». On préfère hypocritement dire qu'elle est en train de faire ce qu'ils appellent l'escorte ou la compagnie galante ou les massages un peu thérapeutiques ou les massages déstressants ou d'autres noms encore qu'on ne peut citer ici. Mais on considère que c'est le propre de la personne même qui a choisi. Et donc, il ne faut pas chercher à l'en empêcher parce que c'est sa liberté individuelle. À la limite, la prostituée ne fera l'objet que d'une simple réprobation morale. Les puristes, les religieux vont regarder la prostituée avec un air de dédain, vont demander à ce que les enfants ne s'approchent pas d'elle ou de sa maison. Mais ça, ce n'est pas des sanctions pénales, parce que la loi elle-même n'a pas fixé un cadre complet pour pouvoir empêcher la prostitution. Et comme je le disais en début d'émission, ça va même être difficile à réaliser. Parce que comment comprendre les cadeaux faits par un homme à une femme et les distinguer du paiement d'un service d'une femme par un homme? Dans tous les cas, la femme aime et adore recevoir des cadeaux. Est-ce qu'on va dire que chaque fois qu'une femme a reçu un cadeau, qu'il s'agit de la prostitution? Absolument pas. Et donc, ça va être difficile de pouvoir interdire la prostitution. Mais par contre, il faut empêcher tout ce qui va déteindre sur l'éducation des enfants. Il faut forcément protéger les enfants, protéger la décence morale, protéger la voie publique. Et c'est pour cette raison qu'il faut donc éviter de laisser les prostituées démontrer ouvertement leur activité. Il ne s'agit pas d'une hypocrisie. La liberté individuelle s'impose. Mais on ne peut pas non plus, au nom de cette liberté individuelle, faire subir par des personnes qui ont choisi une vie puritaine de pouvoir être exposé à la vue d'un certain nombre de choses. Il serait quand même hypocrite ou naïf de se dire que on peut interdire complètement ou le racolage ou la prostitution. Le contexte social même ne permet pas de mettre frein à la prostitution ni au racolage. Quand vous abordez une prostituée comme si c'est une leçon apprise par toutes, elles vous sortiront l'histoire d'une famille qui n'a pas les moyens de l'envoyer à l'école ou de terminer ses éducations. Elle va vous sortir l'histoire d'un fiancé qui est décédé au mauvais moment et qui ne lui donne plus les moyens de survivre. Elle va vous raconter l'histoire d'un abus sexuel qui a déchiré son cœur et qui fait qu'elle ne peut plus avoir confiance. Il y a autant d'histoires qui rappellent simplement un besoin social, un besoin financier, un souci financier qu'elle compte gérer par le fait de se donner comme marchandise. En effet, nous rencontrons que malheureusement, les mauvais rendements des activités commerciales, les investissements qui ont échoué et autres problèmes d'abandon de géniteurs sont des causes réelles des difficultés de certaines jeunes filles. Et c'est ces jeunes filles qui, parfois, malheureusement, par manque de volonté, diraient certains, parce que ce qui on veut vraiment avoir de l'argent, on n'est pas obligé forcément de se prostituer. Et donc, peut-être par mauvaise volonté ou par paresse, ces jeunes filles se laissent aller tout simplement à la prostitution. Et donc, ça va être très difficile de leur interdire cette activité qui leur donne quand même des moyens de survivance. Mais il y a des endroits pour faire cela sans soumettre la population au vu de tout cela. Il y a même des endroits qui sont devenus tristement célèbres dans nos pays. Chaque pays ayant toujours son coin de racolage. Quand vous allez à Cotonou, il y a le célèbre coin Jonké à l'époque. À Lomé, il y a la place Décon. À Ouaga, il y avait la place TV5, etc., etc. Les abords des hôtels ou des bars en vogue sont des lieux de prédilection pour le racolage. Mais c'est oublié, malheureusement, que ces abords-là ne sont pas excentré de la ville. Ces abords sont en plein milieu d'habitation et il y a des familles paisibles avec des enfants en bas âge qui y vivent. Et malheureusement, permettre le racolage serait obliger ces familles paisibles, ces familles qui veulent donner une éducation décente à leurs enfants, c'est les obliger de supporter le racolage. Et surtout que dans ces zones en général, il y a des querelles entre racoleuses qui se battent parce qu'une a voulu prendre un client qui était censé être un client particulier à l'une. Ou alors un client qui ne veut pas payer le montant dû ou qui a fait une promesse qu'il ne veut pas tenir, ces femmes n'hésitent pas à crier, à piailler, quelle que soit l'heure de la nuit. Et donc, les bagarres et autres accoutrements indécents pour pouvoir s'attirer les clients sont des problèmes pour l'éducation des enfants qui vivent dans les zones où dans les zones qui sont proches de ces lieux où le racolage fait la loi. Et donc, il appartient à la police nationale de faire l'arbitrage. Il appartient à la police de pouvoir sonder ces zones pour dissuader ces filles de rester dans les lieux publics contrairement à ce que la loi a prévu. L'article 397 du Code pénal interdit le racolage. Il ne s'agit pas simplement d'aller les bastonner, non, parce que la violence ne règle aucun problème. Il s'agit de les sensibiliser, de les informer d'abord sur ce qui est, parce que malheureusement, contrairement à ce que nous avons pris l'habitude de voir, où on a l'impression que la force marche, ces filles se disent que c'est parce qu'elles sont prostituées, qu'elles sont tabassées, et donc qu'elles vont continuer, mais ailleurs. Elles quittent les endroits connus, mais pour des endroits moins connus, mais elles exercent toujours. Mais il faudrait leur montrer que c'est la loi qui interdit. Et pire encore, si on les prend, il y a la justice qui doit faire son travail. C'est vrai que la question, on le verra tout à l'heure, le montant qui est payé comme amende, est-ce que c'est possible que ces filles-là disposent de ces sous en fin de nuit ou en fin de journée? Ce n'est pas très évident. Mais dans tous les cas, la bonne démarche serait une sensibilisation. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'entretenir des conversations avec ces filles pour leur montrer la raison fondamentale pour laquelle la loi leur interdit de faire le racolage et de voir ensemble avec elles les voies et moyens pour qu'elles puissent continuer leur métier sans verser dans l'indécence, sans verser dans l'atteinte aux bonnes mœurs. Généralement, il y a des quartiers, quand vous avez une grosse voiture et que vous rentrez dans le noir avec ces voitures-là, vous commencez par voir des gens courir dans tous les sens. Pas parce que on pense à ce que vous êtes venu faire, mais on se dit simplement que c'est la police. Et donc, on effraie. Et dès qu'elles ont fini de courir, et qu'elles se rendent compte que ce n'est pas la police, ou si c'est après le passage de la police, elles reviennent encore au même endroit. Preuve que la force ne règle pas forcément le problème. C'est un besoin pressant et utile ou imposé à certaines de ces filles de faire ça. Mais quelle éducation faut-il leur donner pour qu'elles le fassent sans corrompre la jeunesse? Qu'elle le fasse sans verser dans l'indécence, qu'elle le fasse en se protégeant elle-même contre les risques de maladie, de manière à ne pas contaminer éventuellement d'autres personnes. On appelle donc à plus d'informations, à plus de sensibilisation, mais pas un appel à continuer, mais un appel à être réaliste et à voir quelles solutions on peut utiliser pour freiner autant que cela puisse être possible le racolage.
away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Ne copie pas forcément ce qui se fait dans une autre société si on n'a pas mis dans l'éducation les outils que cette société utilise pour corriger ou pour gérer une situation. Et d'ailleurs, une déviance sociétale n'est pas forcément la volonté de la société qui l'a fait. Donc, on n'a pas besoin de copier forcément ce qui est fait chez l'autre. Mais malheureusement, on voit que dans nos pays, surtout en ce qui concerne la mode, on a envie de copier ce que l'Européen fait. On oublie même parfois que certains habits, certaines façons de s'habiller ont des étiquettes qui vont avec. Dans nos sociétés togolaises, par exemple, porter une chaîne au pied n'est pas vu de la même façon que quand une femme porte cela en Europe. Mais est-ce que le simple fait que ça nous plaise parce que on l'a vu à la télé, parce que on l'a vu chez une Européenne, est-ce que cette raison est suffisante pour nous obliger, nous aussi, à mettre une chaîne au pied? C'est juste une question. Ce n'est pas forcément une critique. Mais on a vu qu'aujourd'hui, toutes les femmes essaient d'habiller leurs enfants de façon très courte. À peine la jupe arrive au milieu de la jambe. Des petites jupes avec des petits habits qui montrent le nombril de ces enfants-là. Ce qui était appelé sous-vêtements devient pratiquement survêtement. Et personne ne dit rien. Et pourtant, c'est ces façons de s'habiller qui permettent dans certaines décisions policières de pouvoir justifier que c'était une racoleuse. L'habit ne fait pas le moine, mais c'est le moine qui porte un certain habit. Et donc, il faut pouvoir savoir que lorsque nos femmes, nos mamans habillent leurs enfants d'une certaine façon, ces enfants ont du mal à se distinguer alors des racoleuses qui sont au bord de la route. Et si elles trouvent que ces racoleuses-là sont bien habillées parce que, étant habituées par leur mère à s'habiller de la même façon, elles n'hésiteront pas à copier ce que la racoleuse fait dehors. Et par contre, s'il y a une réprobation de l'habillement de la racoleuse, une façon de rejeter comment cette fille s'habille, ça ferait que naturellement, la petite fille ne va pas chercher à copier l'habillement ou le caractère d'une racoleuse. Mais lorsque vous habituez votre enfant à se dénuder pour dire qu'elle s'est habillée, vous la prédisposez à des activités qui sont vues comme hors nature, parce que étant sujette à une réprobation sociale. Donc, premier conseil à nous, parents, c'est d'habituer nos enfants à s'habiller correctement. La beauté d'une fille ou d'un garçon n'est pas dans le fait de montrer son corps. La beauté d'une personne, c'est d'abord son cœur, c'est d'abord son éducation. Et donc, faisons l'effort d'habiller nos enfants décemment. Ensuite, parlons à nos enfants. Sensibilisons nos enfants, mais en leur disant la vérité. Peut-être pas de façon crue, mais en leur disant quand même la vérité. Et troisième problème, habituons nos enfants qui commencent par grandir à recevoir leurs amis chez vous à la maison. Parce que si vous obligez vos enfants à recevoir les amis dehors en cachette, ces enfants vont apprendre et vont voir dans ce que les racoleuses font comme des moyens de substitution à leur désir de recevoir des gens. Et dans ce cas-là, vos enfants seront assimilés à rien d'autre qu'à des catins, à des prostituées. Donc, ayons la largesse et l'ouverture d'esprit assez suffisante pour donner les informations utiles à nos enfants, en leur démontrant qu'il y a un temps pour tout, mais que le temps le plus approprié, c'est le temps d'abord d'avoir une bonne éducation. C'est d'abord le temps de fréquenter pour savoir distinguer le bien du mal avant d'évoluer dans la vie active. À l'État, il y a encore du travail. C'est vrai que la loi a prévu et réprimande le racolage. La loi dit à l'article 398 que toute personne qui se livre publiquement au racolage en vue de se prostituer est punie d'une amende de 100 000 à 300 000 francs CFA. En cas de récidive, dans un délai d'un an, le coupable est puni d'une amende de 300 000 à 500 000 francs CFA et de 10 à 30 journées de travail d'intérêt général. Est-ce que nous disposons d'outils qui permettent, quand on a pris une racoleuse, par exemple, à servir dans un poste de police, pour que tous les autres postes de police, jusqu'à Plaou-Gakli, jusqu'à Zangera, puisse savoir que cette fille a été déjà arrêtée? Est-ce qu'on permet à la police de traduire ces filles-là devant la justice pour que décision soit prise? Est-ce que les policiers ont un comportement correct et décent envers ces filles? Est-ce que ces policiers ne les méprisent pas et éventuellement n'abusent pas d'elles pour les relâcher après? Est-ce que ces policiers ne sont pas corrompus par ces filles qui vont user de leur charme pour devenir des clients ou pour faire devenir ces policiers-là des clients potentiels? Du coup, mettant sans effet la loi en ces conditions de répression. Voilà donc
qu'il faut également, en dehors des peines de travail d'intérêt général, il faut également discuter, sensibiliser, informer ces filles-là sur tout ce dont elles ont besoin de connaître. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de créer, par exemple, des activités de groupe pour leur faire quitter les rues, ou en tout cas pour leur faire cesser le racolage? Quelqu'un dira même que ce serait essentiel d'électrifier tous les recoins de Lomé, parce que généralement, c'est des dames qui n'aiment pas se mettre à la lumière parce qu'elles savent qu'elles seront arrêtées. Et si on électrifiait tous les recoins de nos villes, est-ce que ce ne serait pas un moyen de lutte efficace contre le racolage? Est-ce que si on créait des centres d'apprentissage et qu'on obligeait toutes ces filles-là à apprendre un métier et à travailler en groupe sous forme de mutuelle ou de coopérative, est-ce qu'on n'aurait pas rendu service à la nation que de chercher simplement à les réprimer, à les chasser, et au risque de les voir trouver des solutions pour contourner le délit? Chers auditeurs d'Arrevue Info, le temps qui nous est imparti est malheureusement écoulé. Nous espérons vous retrouver à une autre émission pour plus d'informations et de formations sur le civisme, sur la citoyenneté et sur le droit. Que Dieu vous bénisse, bien de choses à chacun de nous.